France Musique.
Musique et moi.
Marie-Hélène Lafont.
Priscille Lafitte. France Musique.
Aujourd'hui, la cantate BW 2080, Ein feste Burg ist unser Gott, notre Dieu est une forteresse, est la plus lancinante de mes musiques d'établi. J'appelle musique d'établi ou de travail celle qui, faisant barrage contre le monde, le bruit des autres et des choses, le temps, les pensées et préoccupations parasitaires, favorise et amorce l'émission du texte, sa production matérielle sur le papier ou sur l'écran, l'accompagne ou l'ont au moins précédé, préparé. L'opération relèverait du chimique, de l'organique, ça tient du précipité, et je ne sais pas bien comment ça se passe, ni par où ça passe. Je ne le sais pas bien, et ne veux sans doute pas tellement le savoir. Le premier choral de cette cantate, le dernier aussi, ou la première aria, m'arrache au sens absolu du verbe, m'empoigne et me torde et me rassemble et me ramasse et m'accule au mur blanc du texte en cours. Les musiques d'établi font un travail en moi et sur moi. Elles me mettent en état de vertige têtu et d'urgence jubilatoire. Je me tiens au milieu de la musique, dans l'espace qu'elle invente et dessine. Mon corps est là, il travaille, je travaille dans cette énergie, dans cet élan, cette torsion, cette tension et cette possible douceur. La phrase s'inscrit, s'écrit là, dans ce mouvement. Elle avance son étrave, le texte monte, entre flux et reflux, c'est de la matière et du temps, c'est de la pulsation, c'est du séisme. Ensuite, on verra, on reverra, on s'arrangera, on ne gardera peut-être à peu près rien.
Thank you.
Bonjour Marie-Hélène Lafont.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique. Merci d'accepter cette invitation à venir partager avec nous vos émois musicaux. Vous êtes écrivaine et votre dernier livre, Histoire du Fils, est paru chez Buchet-Chastel. Il a reçu le prix Renaudot, notamment, en novembre dernier. La musique de Bach est pour vous une musique d'établi. C'est ce qui ressort du texte que vous avez lu, texte tiré d'un recueil intitulé « Chantier » qui est paru aux éditions Débuscla. Vous préférez donc parler d'établi plutôt que de table pour évoquer l'endroit où vous exercez votre travail quotidien. Et vous avez cité cette cantate « Ein Festburg ist unser Gott ». Nous venons d'entendre l'interprétation du Collégium Vocal de Gand, dirigé par Philippe Hervègue. Jean-Sébastien Bach est souvent associé à la spiritualité, aux choses de l'esprit en tout cas, à une forme de méditation, de contemplation. Vous écoutez cette musique pour vous mettre au travail, pour vous établir. Est-ce que l'écriture est un travail physique autant qu'un travail de l'esprit?
Assurément. Il n'y a, à mon sens, aucun doute là-dessus.
Est-ce que Bach vous intime l'ordre de travailler, de regarder votre ordinateur, ou votre feuille peut-être, ou vous prend-il par l'oreille pour vous emmener ailleurs?
Bach, cantate et autres pièces me mettent au-dessus de moi-même. C'est une façon d'affûter le corps et l'esprit. C'est exactement ça. Ça affûte, ça met à vif et en état de tension propice. Tension à la fois vertigineuse et jubilatoire. Et il n'est pas dans mon mince registre musical d'autres musiques qui produisent sur moi à ce point-là, cet effet-là.
Une électricité.
Oui, un rassemblement de soi, ça vous met à la proue de vous-même, ça vous met au-dessus de vous-même. Voilà, c'est préliminaire, hein, comme il apparaît dans le texte que j'ai lu. Hein. Je crois que il y a des phases, si vous voulez, d'écriture aiguë où je ne pourrais pas écrire en même temps que j'écoute. J'écris après.
Parce que l'écoute gênerait votre concentration ?
Je vais dire une chose qui prêterait certainement à discussion, mais plus j'avance en âge, plus je trouve que pour les musiques nécessaires, les musiques aiguës, enfin aiguës au sens bien sûr du son, hein, essentielles, il faut leur faire place. On ne peut pas faire autre chose en même temps. On ne peut pas les écouter en faisant autre chose. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas leur faire toute la place qu'elle mérite. Et quand j'étais plus jeune, je pensais que j'écoutais en faisant autre chose, mais je n'écoutais pas, j'entendais. C'est pas du tout la même chose. Et depuis quelques années maintenant, il faut faire un espace en soi pour que la musique s'y déploie. Et à ce moment-là, elle produit pleinement, en ce qui me concerne, voyez, son effet de phase préliminaire à l'écriture. Je crois que c'est la photographe Claude Cahun qui emploie cette expression, être à la proue de soi-même. Bach, les cantates, celle-là tout particulièrement, ça me met à la proue de moi-même.
Thank you.
Nous avons quitté le choral qui clôt la cantate BW 80 Das Wort, Sie sollen lassen stehen. Das Wort, c'est la parole divine qui reste en nous. Quitter donc ce choral pour embrasser le clavier bien tempéré. On a écouté le 10e prélude dans un enregistrement de Glenn Gould qui date du début des années 60. Est-ce que Bach change de message lorsqu'il passe du choral au clavier, de la voix au clavier ? Est-ce qu'il s'adresse différemment à vous ?
C'est plus nu. C'est beaucoup plus nu. C'est presque toujours douloureux. Pour moi, le clavier bien tempéré. Presque toujours. Et je crois que j'aime cette douleur. Que je la recherche. Vous voyez, dans les cantates, dans la musique chorale de Bach, il y a une puissance et une force de la joie. Le clavier bien tempéré, c'est d'une grande âpreté. Et j'aime cette âpreté. J'en ai le goût ancien. J'aime son caractère lancinant. J'aime ce qu'elle draine derrière elle de mise en forme de la douleur et du vertige intérieur. C'est ce que j'entends, moi, dans cette musique, hein. Je conçois tout à fait qu'on puisse y entendre autre chose. C'est ce que j'y cherche et c'est ce que j'y trouve, et depuis très longtemps.
Depuis combien de temps ?
Vous voyez, depuis, j'ai dû commencer à écouter ça au milieu des années 80, en même temps que les cantates, en fait. C'est la même personne qui m'a fait découvrir Bach, les cantates et le clavier bien tempéré. Et d'ailleurs, les interprétations de Glenn Gould. Et ensuite, cet homme-là qui était très... comment dire... qui, à la différence de moi, était vraiment un mélomane, s'est ouvert à d'autres interprétations, a essayé de me faire découvrir d'autres interprétations. Je suis restée fixée, j'ai presque envie de dire, au sens très archaïque du terme, sur Glenn Gould.
Sur l'aridité de ce jeu.
Ouais. Sur l'aridité de ce jeu.
L'espace aussi, il y a de l'espace entre les notes.
Oui, oui, oui. Il y a du blanc.
Il y a du blanc.
Il y a du vertige, il y a de l'absence. Je crois savoir, j'ai cru comprendre hein, que, d'un point de vue savant, enfin c'est une interprétation très très singulière. Enfin voilà. Bon, il se trouve que moi j'ai une histoire avec cette interprétation-là, dont je vois très bien d'où elle procède et je vois très bien pourquoi la fixation s'est faite. Elle est faite et je ne songe guère à la défaire parce que dans cette âpreté, il y a du plaisir, bien sûr.
Il faut la rechercher.
Bien sûr.
Est-ce que vous mettez des personnages, des narrations
non.
derrière
non.
ces voix ?
Non, non, ça reste non. très nu. Ça reste très nu.
Vous allez au concert, à l'opéra, écouter de la musique vivante ? Ça vous arrive ?
Peu.
Enfin,
peu.
Dans le temps où c'était
oui,
encore possible.
Oui, dans le temps, quand c'était possible. J'y allais peu, pour de très mauvaises raisons. Parce que j'ai une, si vous voulez, une organisation de vie entre mon métier de professeur et le travail d'écriture, qui est extrêmement serré. Très, 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 très serré. Et je vais me nourrir avec la peinture, avec le cinéma, avec la danse contemporaine. La seule forme de spectacle vivant à laquelle je sois régulièrement, si vous voulez, présente, c'est la danse contemporaine. Et je n'arrive pas du tout à mobiliser du temps pour me dire je prends un abonnement à la Philharmonie, etc. Donc, il m'est arrivé ponctuellement d'y aller et d'en sortir, mais essoré complètement, parce que c'est d'une... Si vous voulez, par rapport à l'écoute de la musique chez soi, c'est une expérience sensorielle inouïe, quoi. Absolument inouïe. Peut-être même très déstabilisante, au fond, pour moi, vous voyez. Parce que c'est une expérience sensuelle et sensorielle, inouïe et déstabilisante, et on n'est pas seul. On n'est pas seul.
Nous sommes en compagnie de Marie-Hélène Lafon ce matin dans Musique et moi, et en compagnie de Jean-Sébastien Bach. Amandine Beyer interprétait cette deuxième partie en ré mineur. On a entendu l'allemande. C'est un cycle pour violon seul, BW 1004, qui se prête si bien au mouvement du corps que les chorégraphes Anne-Theresa de Kersmaecker et Boris Charmatz l'ont investi sur scène, aux côtés justement d'Amandine Beyer. Vous avez vu ce spectacle, m'avez-vous dit, Marie-Hélène Lafon. Que vouliez-vous dire juste auparavant quand... Vous nous avez parlé de ne pas être seule quand vous voyez ce type de spectacle.
Justement, vous voyez, ça m'empoigne à tel point, ça me met tellement à vif et comme un nu, que c'est presque difficile pour moi d'éprouver ce degré d'émotion en étant dans une salle avec des gens à côté de soi, vous voyez. Et je crois même, en fait, hein, que quand un spectacle me semble devoir atteindre un tel degré d'acuité, je préfère y aller seule. Parce que je serai au milieu de gens que je ne connais pas. Ou alors, n'être accompagné que de quelqu'un avec qui je sois suffisamment en intimité pour éprouver à ses côtés un tel degré de... Oui, d'émotion, pour employer un mot. Voilà, c'est plus que ça, enfin, c'est un bouleversement profond, ça vous retourne comme un gant de peau. Ce genre de... Vous voyez, cette musique-là, jouée sur une scène, hein, donc de la musique vivante, et Boris Charmatz, c'est Anne-Theresa de Kersmaecker, ouf, c'était... je crois que... là aussi, quand on avance en âge, si on essaie de se souvenir des spectacles qui vous ont vraiment qui ont marqué en vous une empreinte profonde, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait, hein, si on y réfléchit bien, si on est bien honnête, il n'y en a pas tant que ça, hein. Et par exemple celui-là, vous voyez, J'y repense régulièrement. Voilà, il y a quelque chose qui s'est inscrit, qui s'est écrit sous la peau, de façon profonde.
Est-ce que ce rapport corporel à la musique de Bach vous parle ? Est-ce que vous êtes sensible au corps aussi d'un instrumentiste qui joue ? Parce que Amandine Beyer est sur la scène pendant ce spectacle.
Absolument, bien entendu. Bien entendu. Le corps de l'instrumentiste et le corps à corps de l'instrumentiste avec son instrument. Ça, c'est extrêmement, extrêmement fascinant. Que ce soit avec violon, violoncelle, piano, ce qu'on peut en percevoir, si vous voulez, de ce qui se passe là, entre l'instrument et celui qui en joue, ça aussi, c'est d'une puissance, d'une sensualité, d'une intimité.
De tension, de relâchement.
Oui, bien sûr. C'est une danse. Hein, c'est une. Alors, ça a quelque chose de très physique, de très spiritualisé en même temps. On sent que c'est codifié aussi, bien sûr. Il y a à la fois quelque chose de savant et d'archaïque là-dedans, qui en soi est déjà un spectacle dans le spectacle.
Voir la musique et écouter la danse, dit souvent Teresa de Kersmaeker.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Thank you.
Blomstedt dirige le Gewandhaus de Leipzig dans l'Allegro de la 6e symphonie de Ludwig van Beethoven.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
La romancière Marie-Hélène Lafont est l'invitée de Musique et moi ce matin. Marie-Hélène Lafont, vous êtes née à Aurillac dans le Cantal. Ce sont donc ces terres-là qui vous ont vu grandir. C'est aussi le théâtre de votre dernier roman, Histoire du fils. Quels sont les sons, les musiques rattachées, reliées à ces lieux de votre enfance? Vous gardez en vous ces souvenirs sonores?
Ah oui, oui, d'une façon extrêmement profonde, intime et renouvelée, vous allez me comprendre, réitérée en quelque sorte. En fait, la première musique, celle dont je dis volontiers qu'elle ne s'oublie pas, c'est la musique des cloches des vaches, parce que dans le Cantal, on met des cloches à certaines vaches dans les troupeaux, en principe pas à toutes. Et jadis, et encore aujourd'hui de façon plus sommaire, mais jadis c'était plus savant en quelque sorte, on mettait à telle ou telle vache tel ou tel type de cloche afin de produire des sons différents. C'était relativement savant comme affaire, si je puis dire. En tout cas, maîtrisé, recherché. Il y a un son qui était recherché. Et moi, je ne savais pas, à cette époque-là, quand j'étais enfant ou adolescente et que je vivais dans le Cantal, je ne savais pas que ceux qui achetaient des cloches et les mettaient à leurs vaches recherchaient tel ou tel type de son. En revanche, j'entendais. J'entendais ça, les nuits d'été. Fenêtres ouvertes. Il y avait la basse continue de la rivière, le feulement de la rivière, puisque la maison dans laquelle j'ai grandi se trouve dans une vallée au fond de laquelle coule une rivière qui s'appelle la Santoire, qui coule dans tous mes livres. C'est un nom qui revient de façon lancinante et éperdument éperdu dans tous mes livres. Et on avait cette basse continue, on avait éventuellement le vent, et à l'oreille, je savais si le vent passait dans des feuilles de frêne, des feuilles de hêtre, ou simplement s'épuiser en friselie sur le lilas du coin du jardin. C'est pas du tout la même musique. Et là-dessus, les cloches des vaches. Ça, c'est la musique des nuits. C'est la première. Hein. C'est une polyphonie.
C'est harmonieux.
Extrêmement. Et ça ne s'oublie pas. Et je la retrouve, hein, cette musique. Je passe beaucoup de temps dans le Cantal, j'ai une maison. Je dors toujours la fenêtre ouverte. Et je la retrouve. Elle est là, cette musique. Vous voyez, elle m'a accompagnée toute ma vie. J'ai commencé d'être avec elle. C'est une musique organique. C'est le bruit que font les choses en existant. C'est la rivière, c'est le vent, ce sont les cloches des vaches.
Est-ce que c'est envahissant comme bruit?
Ou pas du tout.
C'était nuit, il fallait le rechercher.
Pas du tout, c'est pas du tout envahissant. On baigne dedans. dans le silence de la nuit. Le silence de la nuit n'existe pas. Le silence de la nuit n'est pas du silence. Voilà. Hein.
Et on entend avec une autre acuité.
Bien sûr, bien sûr. Et enfant et adolescente, les nuits d'été, en général, j'étais interne, hein, donc je n'étais de façon continue dans cette maison, et je n'y dormais fenêtres ouvertes, que l'été, de façon... Voilà. Et sinon, au mois d'avril, ou au mois de novembre, ou au mois de décembre, dans le Cantal, vous ne dormez pas la fenêtre ouverte. Hein. Ou alors, vous êtes un athlète de la vie. Hein.
Donc, c'était... Et qu'est-ce que vous entendiez dans votre maison ?
Alors, j'entendais ce que je viens de vous dire.
Hein. Mais en hiver ?
Oh, en hiver... En hiver, vous savez bien que les maisons d'ardoise et de bois, ça craque, ça parle, ça mugit un peu. Et le vent, voilà. Mais plus de cloche de vache en hiver, hein, quelque chose de beaucoup plus âpre, de beaucoup plus austère, vous voyez. Mais cette première musique, vraiment, j'y suis extrêmement, extrêmement attachée. Et elle accompagne encore mes jours d'été, mes nuits d'été. J'espère qu'elle les accompagnera jusqu'au bout.
Thank you.
Marie-Hélène Lafont, je vous avais proposé d'écouter ensemble les chants d'Auvergne de Joseph Canteloube. Vous m'avez répondu que ces mélodies ne vous parlaient pas. Mmh. Qu'en revanche, la nature, ou ici l'orage, telle qu'elle est dépeinte dans la symphonie pastorale de Beethoven, éveille en vous des souvenirs. Plus précisément, Beethoven, quand est-ce que vous l'avez écouté ?
En sixième. En classe de sixième. Notre professeur de musique nous l'a fait écouter. Je ne saurais pas vous dire quel extrait, quel morceau de la pastorale il nous a mis entre les oreilles. En tout cas, il nous l'a fait écouter.
Et c'était la première fois pour vous ?
Ah oui, c'était la première fois.
Il n'y avait pas de Beethoven à la maison ?
Ah non, non, non. Parce que le seul moment de toute ma vie où j'ai vu mes parents être en présence de ce qu'on appelle de la musique classique, c'était le moment du concert du Nouvel An diffusé à la télévision chaque 1er janvier. Et donc, vraiment, la musique au sens de musique classique, dite grande musique, voilà.
Hein. Musique savante.
Voilà, il faut en venir à ce point. Je l'entends pour la première fois en sixième, quand j'entre au pensionnat. Auparavant, donc, radio, poste de radio et variété. Mmh. Voilà, la musique, pour moi, c'est ça. Voilà. Bon, alors, évidemment, l'entrée en sixième... le professeur de musique, cette musique-là, c'est à la fois un choc et une humiliation. Une humiliation en caractère social et culturel. Puisque le professeur de musique, certainement animé d'une louable intention, nous demande de réagir après nous avoir fait écouter ça. Et moi, qui suis habituellement une élève, qui se fait honneur,
sérieuse,
on va dire.
Sérieuse, oui.
Alors là, je suis, mais enfin, j'ai rien à dire là-dessus. Ça me dépasse. Voilà, ça me tombe dessus. J'ai pas de mots à mettre là-dessus. Aujourd'hui, hein, rétrospectivement, je pense que je n'avais pas de mots à mettre sur l'acuité de ce qui venait de m'arriver avec ça, si vous voulez. Hein. Et le maître, donc, le professeur de musique, parce que le maître, c'est le mot que je réserve pour mon maître d'école primaire, mais qui ne nous faisait pas écouter de musique. Il nous a ouvert à énormément de choses, mais pas à ça, vous voyez. Le professeur de musique, peut-être parce qu'il y avait d'autres facteurs dont je ne me souviens pas. Bref, il s'est mis en colère. Et il nous a traités de paysans. Ça a été terrible. Terrible. Vraiment, hein, je si vous voulez, j'ai ensuite eu une relation beaucoup plus ouverte et heureuse avec ce même professeur de musique, mais il n'empêche que la musique classique, ça a commencé mal, vous voyez. Ça a commencé comme ça, comme dirait l'autre, hein. C'est-à-dire avec quelque chose qui vous tombe comme ça dessus, à quoi vous ne savez pas faire face, vous n'avez pas les mots, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les codes, et on vous le renvoie comme un boomerang en pleine figure. Vous êtes des paysans, vous êtes des ploucs. Hein. On était au milieu des années 70, c'était une insulte, paysan. Hein. Or, nous étions nombreux dans la salle de classe à être enfants de paysans. Hein. En général, internes, d'ailleurs. Hein. Filles de paysans internes, c'était une école de filles, une école religieuse. Et cette humiliation-là, si vous voulez... je l'ai ressenti avec une grande violence. D'ailleurs, j'étais moi-même quelqu'un d'assez virulent, hein, explosif. Donc, j'ai réagi. Hein, j'ai réagi à cette insulte. Et les débuts comme ça ont été rugueux. Oui. Et je sais bien que dans cette sorte de d'insistance que je mets à dire que je ne sais pas lire une note, que je ne suis pas mélomane, etc., que je n'ai que des goûts et des engouements et éventuellement des émotions et ni plus ni moins, je sais bien qu'il y a comme une trace ancienne et en creux de cette humiliation première. La musique, c'est la grande musique. On va au concert. J'ai toujours eu le sentiment que pour vraiment entrer en musique, il fallait savoir, pas seulement sentir, savoir.
Oh.
Comment se surmonte une humiliation comme ça dans votre abord de la musique? Comment y revenir après?
Ben, j'y suis, alors c'est d'autant plus paradoxal que j'y suis revenue après avec le même professeur. Hmm. Avec le même professeur, puisque je l'ai eu en 6e, 5e, 4e, 3e, je ne garde aucun souvenir d'aucun autre cours avec lui. Aucun. Hein. Ça, c'est complètement désespérant de se dire qu'on a eu une heure de musique pendant 4 ans hein, et qu'on ne se souvient de rien. Même quand on était, comme moi, une élève appliquée, attentive, studieuse, enfin, bon, bref. En seconde, quand j'arrive en seconde, donc 4 ans après, hein, le même, professeur de musique en l'occurrence, hein, et je le savais parce que ça se savait dans la petite ville où j'étais interne, Saint-Flour, dans le Cantal, en l'occurrence aussi, le même maître de musique, donc, avait créé depuis des années un chœur. Et proposait donc aux jeunes filles, quand elles arrivaient en seconde, d'entrer dans ce chœur. J'y suis entrée avec quelques camarades de classe, dont une amie qui est encore aujourd'hui, 50 ans après, toujours une amie. Et donc, j'ai commencé à chanter. J'ai chanté pendant 3 ans dans ce chœur, sous la férule, je pèse mes mots, de ce maître, hein, qui était... il était capable de faire des choses insensées à une grande majorité d'enfants de paysans qui ne savaient pas lire une note. Quand je dis des choses insensées, donc c'était d'aller chanter au Festival de la Chaise Dieu et d'enregistrer avec Marie-Claire Alain. Vous voyez ? Donc, nous avons fait cela. Hein. On n'aurait pas enregistré de l'œuvre pour orgue de Bach avec Marie-Claire Alain si on n'avait pas eu le niveau musical suffisant. Vous voyez ? Aller chanter au Festival de la Chaise Dieu, c'était complètement inouï avec ce maître-là. Il arrivait à nous faire ça. Il avait une force, une puissance, une énergie. Démente. Et il avait aussi une forme de, vous voyez, de violence en lui, qui probablement me séduisait et en même temps m'effrayait. Enfin, je pense que, voilà. Et cette violence, elle était à l'œuvre dans la scène inaugurale avec la symphonie pastorale. Hein. Mais ça se surmonte, la preuve. Parce qu'il m'est resté de ces 3 années-là un legs vraiment profond, nourrissant et définitif.
Blandine Verlet, au clavecin, dans les barricades mystérieuses. Depuis le début de cette émission, Marie-Hélène Lafont, je sens que le partage de la musique, notamment dans les chœurs dont vous venez nous parler, est essentiel dans votre découverte, mais que par ailleurs, vous aimez écouter et ressentir la musique seule, dans votre intériorité. Quand et avec qui avez-vous écouté ces barricades mystérieuses de François Couperin?
Alors, ces barricades mystérieuses de François Couperin, je les ai découvertes et écoutées à plusieurs reprises avec un ami, le mari d'ailleurs d'une amie qui était devenue un ami, il est désormais mort, il s'appelait Victor Martin. Il était musicien, il était compositeur, il était chef de chœur et il était interprète. Et il me jouait les barricades mystérieuses chaque année le soir de mon anniversaire. Voilà. Et je ne peux pas les écouter. Je ne les ai pas chez moi. Je n'ai jamais acheté le disque. Je ne peux plus les écouter. Pour l'instant, je pense que peut-être qu'un jour je pourrais le faire, mais je crains que la réitération qui est inévitable quand vous avez le disque chez vous ou quand vous avez accès au morceau chez vous, de façon, voilà, je crains que la réitération ne finissent par altérer la puissance de l'effet que suscite chez moi ces barricades mystérieuses. Le titre me demeure totalement opaque et la raison pour laquelle cette musique me fait cet effet-là me demeure totalement opaque aussi. Je crois en tout cas pour moi, dans mon parcours avec la musique, il m'a fallu des intercesseurs, voyez, des passeurs, des intercesseurs, des initiateurs, voilà. Et Victor Martin en fut un, et j'en ai eu trois autres en fait, toujours des hommes. Donc le chef de chœur dont je vous ai parlé tout à l'heure, cet homme qui s'appelait Henri Vielard et qui m'a fait écouter Bach, cantate et clavier bien tempéré, etc. Et un ami aussi, extrêmement mélomane, qui avait chez lui des appareils pour écouter de la musique telle que je n'en avais jamais vu. Lorsque je les ai découverts, je devais avoir à peu près 30 ans, et que j'ai vu pour la première fois ces appareils pour écouter de la musique, je n'ai pas reconnu l'objet en lui-même, je n'eusse pas deviné en les voyant que c'était des appareils pour écouter de la musique, c'était d'une qualité absolument extraordinaire. Et là-dessus, avec ça, il m'a fait découvrir, par exemple, les concertos de Beethoven, par exemple, vous voyez, je les ai découverts, voilà. Et aussi, c'est lui qui m'a appris à aimer le voyage d'hiver. Voilà. Moi, il m'a fallu des intercesseurs.
Ooh!
La Notte Placida, extrait d'Il Trovatore de Giuseppe Verdi, Maria Callas, accompagnée de l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dirigé par Nicolas Resquigno.
France Musique, Priscille Lafitte, Musique et moi.
La romancière Marie-Hélène Lafon est mon invitée ce matin. Cet air tiré de l'opéra Il Trovatore est un des airs les plus exigeants, vocalement. Il engage toute l'étendue de la tessiture d'une soprano dramatique d'agilité, comme Maria Sal de Maria Callas. Il y a dans l'écriture toute l'exigence du bel canto, du beau chant, comme on dit, poussé à son paroxysme. des phrases amples, des notes piquées redoutables dans la cabalette. Est-ce que vous diriez que ce chant est beau ou qu'il se place au-delà même de la notion de beauté, Marie-Hélène Lafon?
Pour moi, avant d'être beau, il est virtuose. Donc je l'entends d'abord comme... comme un exploit, vous voyez. Donc, je suis pas du tout certaine que ce soit le meilleur chemin pour accéder à sa beauté. Le chant là, dans l'opéra italien notamment, hein, parce que Mozart ne me fait pas du tout le même effet, vous voyez. Mais le chant dans l'opéra italien, et notamment avec la Callas, puisque j'en ai eu une expérience avec mon initiateur à Bach, hein, il m'a aussi fait écouter la Callas, le même. Et alors là. Pour le coup, y a probablement quelque chose là-dedans de trop... Alors peut-être que le mot va vous sembler complètement décalé, mais trop échevelé pour moi. Trop explicite, trop déployé. J'ai tout à fait conscience hein, que pour chanter ça, comme elle le chante, c'est un exercice de haute voltige, évidemment, de tenue extrême. Mais l'écriture en elle-même, cette écriture musicale, ce que ça déploie, vous voyez, c'est presque trop luxuriant pour moi.
Pour que ça vous touche? Oui. Pour que ça vous transforme?
Ça peut m'émouvoir, mais ça ne peut pas me transformer. Ça peut m'émouvoir, mais ça ne peut pas m'ébranler, au sens de m'enfoncer davantage dans le travail de création.
Parce que vous imaginez la technicité aussi, ce que je comprends, dans ce chant de Marie Callas. Puisque c'est aussi par le chant que vous entrez dans la musique. Oui. Quelle est l'expérience que vous avez tirée corporellement de cette expérience de chant?
Ça m'a appris à respirer. Alors ça, je crois que c'est... Donc j'avais 15 ans, enfin 16 ans, 17 ans, 18 ans, enfin voilà, oui c'est ça, 16, 17, 18. Et... je me souviens très très bien hein, de la façon dont le maître de chœur donc nous faisait respirer, enfin etc. En expliquant la colonne d'air, tout ça. Bon bref, et j'ai appris qu'on respirait de tout le corps et pas seulement avec l'appareil respiratoire, qu'on respirait depuis les orteils jusqu'au bout à la pointe du moindre de ses cheveux.
Et vous y pensez parfois, parce que je ne sais pas si vous chantez encore aujourd'hui, ça vous arrive?
Alors, je chante dans la voiture. Je suis seule dans ma voiture et il m'arrive de chanter. Et il y a des paysages où il y a des moments qui suscitent ça en moi, vous voyez. La nuit, par exemple, une nuit d'été parfaitement étoilée, ça va bien à Belle qui tient ma vie.
Et le cœur ne vous manque pas? Les autres voix, l'harmonie ne vous manque pas? Qu'est-ce que vous vous souvenez de cette expérience-là de cœur, de sentir votre voix parmi d'autres?
Oui. Alors ça, vous voyez, ça c'est une expérience, c'est la seule expérience collective qui m'ait été... je détestais les sports collectifs, toutes ces choses-là, je détestais ça. Mais ça, en revanche, chanter avec les autres, ça c'était une expérience extrêmement enveloppante, extrêmement exaltante. Oui, voilà. Alors je ne dirais pas que ça me manque, si ça me manquait vraiment... Juste chercher un chœur et juste chanter dans un chœur. Beaucoup je connais beaucoup de personnes qui le font avec une joie intense. Et je ne l'ai jamais fait. Et vous voyez, vous m'amenez à me poser la question de savoir pourquoi je ne l'ai jamais fait. Alors j'aurais une réponse qui serait extrêmement superficielle, qui serait de dire manque de temps, tout ça, etc. Mais bon, je ne suis pas certaine que ça soit seulement ça. Hein. Voilà. Hein. Who can't it marry? Far in the can't
Amore,
Dit Longro, je ne sais pas si je prononce bien, ce sont des chants des Albanais de Calabre, Ti Vacharel, Marie-Hélène Lafont, entre les chorales de Bach, on a beaucoup parlé quand même de chœur depuis, on vous fait tout pour y revenir en fait à ce chant en collectivité, je ne veux pas trop insister mais quand même.
Alors ça, vous voyez, ces chœurs-là, c'est le poète Guy Goffet qui me les a fait découvrir. Et c'est pas indifférent du tout, à mon avis, parce que, en fait, je crois que dans le chant, dans le chœur, dans la façon dont les voix s'articulent, s'épousent, se quittent, se heurtent, apparaissent, disparaissent. Enfin, il y a quelque chose qui est extrêmement chorégraphique et il y a quelque chose qui est profondément lié, je crois, au travail du texte, à la façon dont une voix va apparaître dans un texte, dans le travail d'écriture, vous voyez. Je pense que, pour moi, il y a une cohérence profonde entre cette expérience que j'ai pu avoir, que j'ai eu la chance d'avoir, hein, à cet âge-là, de pousser ma voix, de lui donner forme et sens sous l'impulsion, voilà, d'un chef de chœur et avec les autres. En effet, vous avez tout à fait raison de le souligner, avec les autres voix. Voilà. D'ailleurs, je percevais vraiment comme une sorte d'indignité le fait de n'être que soprano. Moi, j'aurais voulu être alto. Ça me paraissait
beaucoup plus.
Elles étaient moins nombreuses. Dans notre chœur, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les chœurs, mais elles étaient moins nombreuses. J'avais le sentiment que nous étions la piétaille. Et il me semblait que la partie des altos était plus, avait quelque chose de plus, comment dire, de plus austère, de plus essentiel. Vous voyez, qu'on était davantage à l'os avec les altiques, avec les sopranis, qui éventuellement parfois pouvaient comme ça être un peu plus légers, prime sautier. Voilà, j'avais ce sentiment là. Vous voyez, c'était pas technique.
Hein. La couleur harmonique souvent provient des altiques.
Oui, alors vous voyez, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de très essentiel autour d'eux, voilà. Mais je n'aurais pas su l'expliquer de manière rationnelle. Mais la question, si vous voulez, des voix dans le chant, des voix mêlées, des voix nouées, voilà, et la question de l'écriture ont à voir, ces deux questions ont à voir de façon intime l'une avec l'autre. Et quand j'ai commencé à écrire, bien après ça, hein, j'ai commencé à écrire tard, hein, j'ai bien senti qu'il s'agissait, même si ça n'était pas matérialisé sous la forme d'un chant, de chercher sa voix. Et oui.
Dans votre livre Histoire du fils, Marie-Hélène Lafont, ils font reconstituer le puzzle. Reprendre les dates, les comparer, refaire le chemin, vous brouillez même la chronologie. Est-ce que vous faites aussi ce même chemin en musique lorsqu'un thème surgit, disparaît, reparaît? Par exemple, on l'entendait chez Beethoven, puis on va l'entendre là dans le jazz, on va entendre Bill Evans dans Peace, Peace. Il faut là aussi suivre le fil, le reconstituer parfois, le compléter mentalement, c'est un jeu.
Eh bien, enfin, on ne regrette pas d'être venu chez vous. Hein, parce que moi, je n'avais jamais pensé à ça. Vous voyez, quand vous le dites, ça me paraît d'une évidence absolue. Je n'y avais jamais pensé.
Mais je vous propose qu'on écoute Bill Evans avec ses oreilles-là.
Écoutons.
On parlait de thèmes précédemment, mais on pourrait aussi parler de traces, d'éléments du passé, puisqu'il est question de ça dans votre roman. Des traces laissées par les individus, au-delà de leur mort, au-delà des mots parfois. Est-ce que vous pouvez vivre aussi, c'est comme ça que vous vivez la musique, laisser ses traces ressurgir, se manifester.
Mmh. Oui. C'est probablement pour ça d'ailleurs. Je le matérialise en vous écoutant, que ça peut susciter l'écoute de certaines. Les barricades mystérieuses peuvent susciter des émotions très très fortes liées à la disparition. Je crois que, en ce qui me concerne en tout cas, certaines musiques me placent en face de ma finitude. C'est aussi un face-à-face avec la mort. Je ne parle pas de douleur, là, je ne parle pas de chagrin. Je parle de face-à-face avec notre finitude. Il y a une gravité là-dedans qui pour moi, est très, très liée à... au rapport que j'ai à certaines musiques, oui, vous voyez. Celle-là, par exemple, là, qui est entrée récemment à mon répertoire, entre guillemets. C'est un ami poète qui me l'a fait découvrir. Et le jazz, hein, c'est un domaine dans lequel je ne connais rien. Rien de rien de rien. Je serais tout à fait capable de confondre un morceau important et de la musique d'ascenseur. Hein. Franchement, voilà. Mais ça, là... Je vois bien de quoi ça me parle. Et je ne peux pas m'empêcher, en l'écoutant, de penser à Glenn Gould et au clavier bien tempéré.
La qualité du silence qui vous habite quand vous écoutez, est-il de même nature que le silence qui habite aussi vos textes ?
Oui. Oui. Et la question du silence, c'est fondamental dans ces pièces musicales-là, et c'est fondamental dans mes propres livres. Et je crois que la question du silence... est fondamental pour la création. Je crois que s'il n'y a pas de silence, de creux, de manque, d'absence et de perte, il n'y a pas de création. Ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire.
L'un de vos romans, L'Annonce, a été adapté en film, diffusé sur Arte. Quelle forme aurait une adaptation musicale de l'histoire du fils ? Un opéra ? Une symphonie ? Une sonate ? Un quatuor, peut-être.
Oui, un quatuor. Oui, je verrais plutôt. Oui, je crois que vous avez raison. Parce que en vous écoutant, je me dis. Non, non, un quatuor. Oui, oui.
Est-ce qu'on peut se quitter sur le 10e quatuor de Beethoven ?
Quittons-nous.
Par le quatuor Eben, on écoute le presto. Thank you. Le presto du 10e quatuor à cordes de Ludwig van Beethoven en mi bémol majeur opus 74, c'était les quatuors Eben. Merci beaucoup Marie-Hélène Lafont d'être venue dans cette émission ce matin. Votre roman Histoire du fils qui est paru chez Buchet-Chastel et dans lequel il est question d'ailleurs de musique, puisque Gabriel tient à ce que son fils joue du piano. On y entend la musique comme ascenseur social, mais on a bien entendu chez vous ce matin, ce rapport corporel nécessaire, vital, ardu à la musique. Merci beaucoup pour ce partage. Merci aussi pour ce très beau texte sur Bach qu'on peut retrouver dans Chantier et dans lequel on trouve aussi vos remarques sur Maria Callas. Merci à Sébastien Royer à la technique, Lionel Quentin à la réalisation, Marie Ferdinand attachée de production. À la semaine prochaine, passez une très belle journée sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.